A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un festival citoyen qui rayonne dans le monde entier. Depuis 2003, les dialogues en humanité réunissent des dizaines, puis des centaines et maintenant des milliers de personnes intéressées par la démarche qui consiste à réfléchir positivement sur comment se positionner face aux défis du monde. Scientifiques, politiques, philosophes, écrivains, artistes ou activistes discutent librement de comment réussir l'Anthropocène ou cultiver la conscience planétaire. Et en ce moment, leurs propos sont plus que jamais inspirants. D'habitude, les dialogues en humanité se déroulent à l'ombre des arbres du magnifique parc de la Tête d'Or à Lyon, dans le sud-est de la France. Mais cette année, ce fut virtuel et je ne résiste pas à l'idée de partager avec vous quelques morceaux choisis.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Patrick Vivray.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes philosophe, essayiste, magistrat honoraire à la Cour des comptes et cofondateur donc des Dialogues en Humanité. L'histoire de ces rencontres a débuté en 2002. Racontez-nous.
C'était l'époque où je conduisais une mission interministérielle sur une autre approche de la richesse. J'ai eu l'occasion de venir en parler au maire de Lyon. Et comme du fait de cette mission, je préparais aussi le sommet de la Terre de Johannesburg, j'avais participé au dialogue pour la Terre qui était initié par Mikhail Gorbatchev, et je m'étais dit, c'est très bien de faire des sommets de la Terre, des dialogues pour la Terre, mais au fond, le problème principal de nos rapports à la nature, c'est qu'ils sont déréglés, parce que notre rapport à nous-mêmes, nous, êtres humains, est aussi déréglé. Et donc, c'est bien de faire des sommets de la Terre, des dialogues pour la Terre, mais ce serait bien aussi de faire des dialogues en humanité.
Alors, comment le concept a évolué en près de 20 ans ?
Alors, au départ, on a beaucoup travaillé une autre approche sur le fond, puisqu'il s'agissait justement de placer la question humaine comme étant une question centrale, ce que Edgar Morin nomme une question anthropolitique. Et puis, au fur et à mesure que nous avancions sur cette approche, nous nous sommes rendus compte que c'était bien d'innover sur le fond, mais que ça l'était tout autant sur la forme. Et comme à Lyon, nous avons ce formidable parc de la Tête d'Or et que l'une de nos intuitions, c'était de faire en quelque sorte un transfert de technologie sud-nord, c'est-à-dire d'apprendre aussi de la palabre africaine et de ce qu'il était possible de produire comme changement de rapport entre humains à partir du moment où l'on vivait sous les arbres. Nous avons eu l'idée de développer ces dialogues ultérieurement, d'abord sous les arbres du parc de la Tête d'Or, et puis au fur et à mesure, les amis du monde entier qui venaient participer à ces dialogues et qui trouvaient que c'était une très belle façon d'entrer dans l'échange, ont choisi de reproduire dans leur pays, dans leur propre ville, ces mêmes dialogues, et la plupart du temps en le faisant également sous des arbres, et c'est ainsi que les dialogues en humanité sont devenus un moyen de rencontre dans le monde entier.
Alors cette édition 2020 était particulière, hein, tout d'abord parce qu'elle s'est passée sur Internet et pas sous les arbres, et ensuite parce que le contexte était inédit. Alors en quoi cela a influencé les échanges selon vous ?
Alors d'abord parce que justement le seul fait de dire, malgré la pandémie, nous allons tenir ces dialogues, c'est un acte de résistance créatrice, pourrait-on dire. D'autre part, ça permettait justement de transformer un obstacle en opportunité, ce qui est un des thèmes forts des dialogues, puisque un certain nombre d'amis qui n'avaient pas toujours la possibilité de venir à Lyon, y compris parce que ça peut coûter relativement cher. Là, il y avait une possibilité que des personnes s'assemblent dans leur propre vie, dans leur propre pays, mais dans un échange à distance. Et donc, cette capacité, du même coup, à dire cette pandémie, elle vient en quelque sorte confirmer l'hypothèse originelle des dialogues, hein, puisque quand nous avons créé les dialogues en humanité, nous avons dit l'humanité est un carrefour critique de son histoire, et la grande affaire, c'est de réussir ce carrefour critique. L'humanité peut se perdre, mais elle peut franchir aussi un saut qualitatif dans ce que nous avons appelé la voie de sa propre humanisation. Et donc là, cette année, d'une certaine façon, nos hypothèses se trouvaient complètement confirmées, et donc c'était d'autant plus important de les tenir, mais de les tenir en utilisant pleinement l'opportunité de l'échange à distance.
Alors pour vous justement qui participez et qui avez créé ces dialogues depuis 2003, qui avez écrit de nombreux essais, qui est un acteur de la façon dont l'humain peut miser sur cette période un peu inquiétante pour se transformer et peut-être gagner en humanité, quelles leçons vous tirez de la situation actuelle ?
Nous sommes effectivement rentrés dans ce carrefour critique. Ça n'est pas faire du catastrophisme que de dire que l'humanité peut se perdre. Elle a même l'embarras du choix sur la façon de se perdre. Elle peut se perdre en détruisant ses écosystèmes vitaux. C'est ce qu'on voit sur des enjeux tels que le climat, la biodiversité, les grandes pollutions. Elle peut se perdre aussi en s'auto-détruisant elle-même. C'est tout le problème des armes de destruction massive, et on en perd le moins aujourd'hui, mais ce danger est tout à fait réel, y compris sur un plan accidentel. C'est Jean-Pierre Dupuis qui a montré récemment dans un livre que le danger nucléaire militaire le plus important était désormais un danger de type accidentel, à cause des phénomènes d'automatisation, de miniaturisation. Donc ça, c'est le second risque. Et puis, il y a un troisième risque, c'est ce qu'on peut appeler une fatigue d'humanité. Au fond, qu'est-ce que portent des courants tels que le transhumanisme ? C'est de dire l'humanité, c'est vraiment trop compliqué, place aux robots. Et donc, par rapport à ce triple risque, qui est tout à fait réel, notre enjeu, c'est de dire « ouvrons ». Une voie positive. C'est pour ça que l'un des thèmes que l'on a choisi cette année, c'était comment réussir l'anthropocène. Cette anthropocène, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'espèce humaine d'agir, y compris sur des grands écosystèmes vitaux, comment faire en sorte que cette capacité ne soit pas destructrice, mais devienne au contraire positive. Et donc, une autre façon de le dire, c'est de considérer que ce fameux homo sapiens sapiens que nous sommes censés être, comme le dit Edgar Morin, là encore, nous sommes davantage des homo sapiens démins que sapiens sapiens, mais qu'à défaut d'être une origine, ça peut être, ça doit être un projet. Et qu'à partir du moment où l'humanité est capable de mobiliser ce premier sapiens, qui est le sapiens de l'intelligence, mais d'une intelligence au service de la vie, d'une intelligence au service de la coopération et non pas de la rivalité et de la guerre. Et le deuxième sapiens, qui est le sapiens de la sagesse, donc de ce qu'on peut aussi appeler l'intelligence du cœur, l'intelligence sensible, que à ce moment-là, si l'humanité réussit à réunir cette intelligence et cette sagesse, non seulement elle peut se sauver elle-même, mais elle peut aussi franchir un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation. Elle peut grandir en humanité, qui est un autre thème cher au dialogue.
Alors, dernière question, par où commencer quand on vous écoute ? Comment on commence individuellement ?
Là, pour le coup, l'avantage, si je puis dire, c'est qu'on peut commencer de tous côtés à la fois, parce qu'on peut commencer par soi-même, puisqu'on peut se poser la question: qu'est-ce qui en moi est force de vie ? Qu'est-ce qui fait que ma propre intelligence, ma propre sagesse au sens d'intelligence du cœur, je les mobilise plutôt que mes pulsions destructrices dans le rapport aux autres, dans le rapport à la nature ? mais on peut le faire au niveau local, on peut le faire au niveau d'un pays, on peut le faire au niveau d'un continent comme l'Europe, et on peut le faire au niveau mondial. C'est pour ça que l'un des grands enjeux des dialogues, c'était l'émergence d'une conscience planétaire, et que nous travaillons avec d'autres réseaux citoyens du monde entier à faire émerger cette conscience planétaire, et aussi du côté des institutions elles-mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles on a, par exemple, beaucoup de rapports avec le secrétaire général actuel des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est justement très intéressé à faire émerger une forme d'alliance entre la partie la plus dynamique des Nations Unies et la partie la plus dynamique de cette société civile mondiale pour réussir cette grande alliance du vivant. Et donc, vous voyez, toutes les entrées sont possibles, simplement, évidemment, il faut rentrer en coopération. L'un des objets des réseaux que nous faisons, c'est autour du thème de l'archipel citoyen planétaire. On s'inspire beaucoup de l'approche du poète antillais Édouard Glissant. Et à ce moment-là, nous pouvons commencer où on veut, avec qui le veut, aussi bien dans les quartiers de nos villes-mondes que dans notre approche plus personnelle, que dans les approches de transformation collective, ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait aussi appelé le TPTS, TPTS voulant dire transformation personnelle et transformation collective peuvent être parfaitement complémentaires.
Merci Patrick Vivray.
Merci Anne-Cécile.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Je vous propose maintenant d'écouter quelques extraits des Riches Dialogues en Humanité édition 2020. On commence par les propos introductifs de Yves Mathieu, qui a animé la conférence sur le thème « Cultiver la conscience planétaire et faire grandir la conscience citoyenne ». Yves Mathieu est le co-directeur de Mission Publique, un cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la gouvernance et des décisions par la participation des citoyens. Il s'est récemment impliqué dans la Convention française des citoyens pour le climat.
Alors, pour ouvrir cette session sur cette question de la culture planétaire et de la conscience citoyenne, je vais vous raconter le résultat de deux échanges que j'ai eus récemment avec deux astronautes français, Jean-François Clairvoy et Claudie Aigneré. Parce que pour moi, la question de la conscience planétaire et de la conscience citoyenne se relie à un indicateur, qui est un indicateur dont on parle chaque année, qui est celui de la date du dépassement, cette fameuse date où l'humanité a dépassé ce que le système vivant offre comme ressources renouvelables. Et chaque année, nous constatons que cette date du dépassement, ce que les 7 milliards d'humains consomment, avance de quelques jours. Et en fait, c'est un indicateur parce que s'il y avait conscience planétaire et conscience citoyenne active, la date de dépassement ne serait jamais atteinte dans l'année. Et dans mon échange avec ces deux astronautes, Jean-François Clairvoy et Claudie Aigneré, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que là-haut, quand vous êtes dans votre système spatial, dans la station spatiale ou dans la navette, qu'est-ce qui fait que vous respectez strictement les systèmes? Parce que les humains qui sont dans l'espace, il ne leur viendrait jamais à l'idée d'avoir une date de dépassement, parce que date de dépassement signifierait mort. Et donc je leur ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un engin spatial, vous respectez les limites du système, alors que la Terre est aussi un engin spatial? Mais, curieusement, dans notre voyage dans l'univers, nous ne respectons pas les limites de ce système spatial sur lequel nous sommes embarqués. Et ils m'ont répondu trois choses que je vais partager avec vous, qui sont pour moi des éléments qui sont à la fois tellement évidents et qui sont finalement le secret du non-dépassement et du respect du système vivant. Donc peut-être derrière ça, le secret de la conscience planétaire et la conscience citoyenne. Alors la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que dans un vaisseau spatial, chaque habitant connaît et comprend et est capable de réparer le système de support de vie. C'est-à-dire qu'avant d'embarquer, on apprend pendant des heures, pendant des jours, comment ça fonctionne, comment on a de l'eau, comment on a de l'oxygène. Et non seulement on apprend comment ça fonctionne, mais on apprend à le réparer. Ce qui veut dire que chaque humain embarqué sait que les autres pourront l'aider et sait que les autres savent aussi comment réparer. Question pour nous, comment faisons-nous pour apprendre et pour être en état de réparer notre système support de la vie? La deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'est que là-haut, chacun, chacune a un rôle, une mission, et chacun et chacune se sent utile aux autres, non seulement aux autres qui sont avec eux, mais à l'humanité entière. Quand on est astronaute, on a un rôle à jouer pour l'ensemble de l'humanité. Donc pour nous, même question, comment nous sentons-nous utiles? Comment faisons-nous en sorte que chacun soit à sa place dans l'humanité et que chaque personne soit non seulement utile aux autres, mais utile à l'ensemble de l'humanité? Et le troisième secret, c'est que, en fait, ils m'ont dit tous les deux que dès qu'ils avaient 10 minutes de repos, leur tentation n'était pas de s'acheter le dernier t-shirt à la mode ou une montre en plus, mais leur seule envie, c'était d'aller s'installer à la fenêtre et de regarder la Terre, tellement c'est beau, et que ce spectacle incroyable de la Terre les occupait tout le temps qu'ils avaient de disponible, et que finalement, l'admiration du système vivant, l'admiration de notre planète est tellement forte quand on apprend à la regarder que ça suffit pour réapprendre à se concentrer sur l'essentiel. Donc voilà les trois secrets que j'ai entendus de cet échange et je propose que dans on s'interroge sur comment pouvons-nous concrètement nourrir cette conscience planétaire collective, comment est-ce qu'on peut percevoir ensemble en permanence ce cadeau incroyable que nous avons de vivre, quand tout va bien, 30 à 35 000 jours sur Terre. Comment pouvons-nous exciter notre conscience planétaire, trouver la paix avec notre système de support de vie, c'est-à-dire l'écosystème, et comment entrer dans une conscience de notre appartenance à l'humanité avec ses extraordinaires différences?
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
A viral mission of superstition. Reactivated, now automated. Appropriated, investigated. Global tectites, psychorobotic. Plasma bionic, red superstatic. A new transition for integration. Your invitation, GLORIA.
Vous écoutez C'est pas du bon sur RFI, nous donnons la parole aux intervenants des Dialogues en Humanité, ce forum citoyen qui réunit chaque année des milliers de personnes d'une quinzaine de pays, de l'Himalaya au Brésil. Cette année, au lieu de se dérouler à l'ombre des arbres du magnifique parc de la Tête d'Or à Lyon, dans le sud-est de la France, les échanges furent virtuels. L'un des temps forts de cette édition 2020 a été la conférence sur le thème « Comment réussir l'Anthropocène ?». Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'Anthropocène ? Je vous propose d'écouter les explications du politologue et sociologue Erwan Lecoeur.
Rappelez quand même que les gens qui ont créé l'idée même, le terme d'anthropocène, n'étaient pas aussi joyeux et positifs que nous le sommes ici aujourd'hui. L'anthropocène dit quand même quelque chose qui est non seulement nous ne sommes plus maîtres et possesseurs de la nature, Descartes, mais en plus nous avons perdu les clés du jardin, c'est-à-dire nous avons perdu le contrôle, concrètement. Et de plus, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la période la plus récente de l'Anthropocène, hein, cette toute petite période depuis 1945, c'est la grande accélération. C'est-à-dire, nous n'avons que des courbes qui explosent en termes de dégradation, de toutes ces choses. Donc, première chose, l'Anthropocène, c'est un phénomène d'accélération des époques géologiques. La dernière avait duré environ 12 000 ans, celle-ci, moins de 100 ans. Donc voilà, première chose, d'autres personnes l'appellent aussi Mollismocène, hein, l'âge des déchets, en français le poubellien, donc ça vient après le Jurassique, le poubellien. D'autres parlent de Capitalocène, je le rappelle, puisque en gros la population mondiale a été multipliée par 10, la consommation d'énergie par 40 et le capital, lui, par 134. Donc il y a aussi un problème de ce point de vue-là, comment nous vivons, quelles sont, ça vient d'être dit, les formes économiques qui régissent nos sociétés. Certains même parlent de thanatocène, c'est-à-dire qu'en fait, ce que nous infligeons à la Terre, nous l'avons déjà infligé sous la forme de thanatos, de guerre. Je rappelle qu'il y a à peu près 80 ans sans guerre dans l'histoire de l'humanité, en tout et pour tout. L'anthropocène positive, j'avais dit qu'il me semblait que, en effet, la question était plutôt comment est-ce qu'on réussit l'anthropocène, puisque désormais nous sommes en charge, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que nous ne sommes pas de très bons jardiniers. Voilà, qu'en gros, il y a peut-être eu une météorite qui a fait pire pour les dinosaures que nous aujourd'hui pour nous-mêmes. Donc, je le disais, nous ne sommes plus maîtres et possesseurs de la nature, Descartes. Nous subissons désormais les conséquences de nos actions sur la nature. Nous avons perdu le contrôle et, je dirais, les clés du jardin. Or, il s'agit aujourd'hui, et vous l'avez bien explicité, c'était les uns et les autres, de redevenir ou de devenir peut-être des jardiniers de cette terre qui nous porte. Sociologiquement, ça veut dire quoi? Ça a été un petit peu dit. Ça veut dire une nouvelle façon de vivre et de présenter l'avenir. C'est-à-dire de s'imaginer une utopie à réaliser. Utopos, sans lieu, mais là, en l'occurrence, le lieu, c'est la Terre. Réussir l'anthropocène, je dirais rapidement, c'est un, prendre au sérieux, enfin, notre rôle et notre responsabilité à l'égard de la Terre, mais aussi de la nature. C'est ce que j'appellerais sortir de la morale des principes pour entrer dans une morale des conséquences. Chacun de mes actes a des conséquences. Désormais, ce n'est pas parce que quelque chose est mal que je ne le fais pas, c'est parce que ça a des conséquences qui sont mauvaises. Et du coup, ça nous sort un petit peu des religions du mal et du bien, et ça nous fait entrer dans une forme de rationalité positive qui est « je ne fais pas ça parce que c'est pas que c'est mal, c'est que ça a des conséquences qui sont mauvaises ». Donc, je prônerai, moi, une morale des conséquences en termes sociologiques. Deuxième point, réussir l'anthropocène, c'est choisir. Choisir quoi? De reprendre le contrôle de nos activités. C'est-à-dire, on arrête de laisser aller les choses et on fait un effort. Et on est capable désormais d'évaluer nos techniques, nos habitudes, à l'aune de quelque chose qui est plus large. J'y viens, c'est donc, il faut proposer pour ça de nouvelles valeurs, normes, règles, codes et modes de vie. Hein, c'est clair. C'est par exemple décider que oui, le crime d'écocide est primordial. Je dirais que de ce point de vue, en termes sociologiques, on voit bien comment l'opinion même mondiale a évolué. Oui, il y a un problème, tout le monde le pense, tout le monde le sait. 85% des Français disent l'environnement c'est très important, environ 15% agissent un petit peu sérieusement. Ce qui nous laisse 70% de gens dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive, une maladie sociale bien connue, je ne fais pas ce que je dis ou ce que je pense qu'il faudrait faire. Hein, le fumeur est l'exemple prototypique de ça, l'automobiliste parfois aussi. Nous avons récemment eu quand même le Covid-19 qui nous a quand même montré, sociologiquement, de façon sociale, qu'on pouvait modifier nos comportements très vite et très fort. On pensait que c'était impossible, mais non, c'est possible. Il faut juste avoir, un, des exemples du fait que c'est possible, des enjeux qui soient compréhensibles par le plus grand nombre, et puis des gens ou des choses à sauver. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans l'anthropocène et dans la façon de le réussir, c'est que nous ne savons pas très bien ce que nous allons sauver. Quelque part, des chercheurs des années 30-40 disaient déjà, au fond, peut-être que l'humanité a envie de se suicider, c'est peut-être ça le final de l'histoire, que le thanatos est peut-être plus fort que l'éros dans nos civilisations. Ce n'est pas une hypothèse à mettre complètement de côté, je la garde quand même. Pour finir, réussir l'anthropocène, c'est deux choses. Un, il me semble, c'est donner à voir, et là on rejoint l'Institut des futurs souhaitables et le fait de donner à voir un avenir, c'est donner à voir, mais aussi développer, ici et maintenant, et peut-être parfois imposer par la loi, par les codes, par les normes, de façon sociologique, une façon de vivre qui préserve les formes de vie et qui les répare. Ça a été dit tout à l'heure. Et deux, réussir l'anthropocène, à mon sens, c'est se raconter une nouvelle histoire, collectivement, pour l'époque qui s'ouvre. Je rappelle que l'anthropocène, c'est l'époque qui s'ouvre, c'est cette nouvelle époque géologique sur laquelle l'homme a désormais les clés du camion, et d'une certaine façon, c'est lui qui décide s'il freine, s'il fonce dans le mur, etc. Ce sont donc des récits, des fictions, qui guident, comme on le sait, la structure mentale de nos sociétés, donc la structure politique. On ne peut avoir quelques espoirs après les résultats récents en politique, c'est plutôt mon domaine. Néanmoins, je pense qu'il faut encore changer la structure mentale et donc il faut se raconter des histoires.
Se raconter des histoires, voilà une de nos capacités humaines. Des capacités qu'il faut stimuler pour aller dans le sens du bien commun. Il faut remettre du sens dans nos choix pour mieux hiérarchiser nos priorités. C'est en tout cas l'avis de l'homme politique et président de la Fondation pour l'Homme et la Nature, Nicolas Hulot, qui cite, pour commencer son intervention dans les dialogues en humanité, le philosophe Edgar Morin.
La bonne nouvelle, comme le dit très bien Edgar, c'est que nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants. Et comme disait préventivement Einstein, notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. La bonne nouvelle, c'est que, me semble-t-il, nous avons tous les outils sur la table pour faire un saut qualitatif à l'humanité et peut-être achever l'accomplissement de l'humanité, cette distinction qui devrait justement nous faire émerger et nous mettre devant nos responsabilités dans le monde du vivant. Ça n'est donc pas une question de moyens, c'est une question de finalité, c'est une question de sens. On se retrouve par le hasard de la biologie, de la génétique, à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité. Précédemment, l'évolution a accompli deux étapes, le saut de la vie. Après le saut de l'esprit, la conscience a surgi et nous sommes réunis devant cette injonction de troisième étape, c'est le saut du sens. Qu'est-ce qu'on fait de notre intelligence? Elle est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. C'est le paradoxe de l'époque. Ce qui me donne foi et qui me permet, même dans les moments de doute, parce que je reconnais que de temps en temps, garder l'espoir devient un acte de bravoure, c'est que d'abord, je considère que nous avons tout sur la table, et je pourrais y revenir pour faire un saut qualitatif à l'échelle universelle, et puis qu'il y a un monde invisible, parfois silencieux, qui agit, qui fait émerger, qui crée, qui partage, qui, quelque part, a pris conscience que nous faisons partie d'un tout. Et c'est cette face de l'humanité qu'il faut essayer de faire émerger. Parce que je crois qu'il y a deux humanités qui sont en train de s'affronter, pour être un peu caricatural. Il y a une humanité qui est probablement majoritaire, mais souvent pas forcément visible, parce que discrète, humble, simple, qui travaille pour protéger le bien commun. Et puis il y a une humanité, pardon de l'exercice peut-être un peu caricatural, mais qui elle essaie plutôt d'accaparer le bien commun. Eh ben, il faut créer cette énergie, ces forces, ces modalités pour que cette humanité qui travaille pour le bien commun, eh bien, puisse devenir une force irrésistible. Alors, quand je dis qu'on a tous les outils, oui, on a tous les outils que le passé nous a posés sur la table, au point d'ailleurs de ne plus s'en rendre compte, tant nous sommes parfois privilégiés d'avoir, par exemple, des acquis démocratiques, pour ne parler que de notre espace géographique. Nous avons des acquis technologiques, scientifiques, bien entendu, historiques, puisque l'histoire, normalement, devrait être une grille de lecture pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Et puis, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent fait. Quand on veut investir dans une transition, il y a les moyens économiques. L'argent est là. Il n'est pas là où il doit être, il n'est pas injecté où il doit être, il n'est pas concentré là où il doit être, mais il est là. Donc on voit bien que tout cela revient à une question de sens et de finalité, et non pas simplement de moyens. Et donc la première des choses, c'est d'abord, est-ce que nous serons capables de définir ensemble l'absolu prioritaire, ce qui fait sens, distinguer l'essentiel du superficiel? Est-ce que nous serons capables de faire converger ces énergies créatrices et positives? C'est la question. Comment est-ce que nous serons capables, à l'issue d'une démonstration qui n'est pas achevée, qui nous a confrontés à notre vulnérabilité, cet épisode du Covid-19, de nous rendre compte de la futilité de certaines de nos attitudes et de nos comportements pour nous retrouver sur l'essentiel, parce que nous avons été confrontés paradoxalement, à notre puissance, mais également à notre vulnérabilité.
Malgré l'état du monde et cette crise sanitaire que nous traversons, pour Sandrine Roudot, auteure de « L'utopie mode d'emploi » aux éditions La Mer Salée, il faut tout d'abord avoir foi en l'humanité.
Moi, en travaillant sur les francs changements, ce que je me dis pour cette histoire de réussir l'Anthropocène, c'est une première chose, c'est qu'on a besoin de désir, on a besoin de quelque chose. C'est vrai que réussir l'Anthropocène, a priori, ça n'en crée pas beaucoup. Mais dès qu'on le transforme dans quelque chose qui va nous galvaniser, on a besoin de cette force de vie pour pouvoir se projeter dans un autre monde. Et moi, c'est comme ça que je suis tombée sur l'utopie, en travaillant sur les freins au changement, qui est à la fois une vision radicale des choses, mais qui est aussi une vision positive, qui est l'idée que ce qui n'existe pas encore, c'est à cela que l'on doit s'atteler. Et en fait, c'est ça que l'on doit décider de porter. Et ça, c'est une force formidable d'avancer. Et surtout, ça permet de se désengluer du présent. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de regarder tout ce qu'on est en train de faire de terrible, on est surtout en train de se projeter dans ce qu'on veut voir advenir. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que l'utopie, ce n'est pas simplement un truc de bisounours irréaliste, mais c'est vraiment l'irréalisé. Et qu'à chaque fois que le monde a progressé, il a progressé grâce à des utopies et grâce à des minorités. C'est aussi l'idée d'arrêter de penser qu'il faut absolument attendre une majorité pour changer et que peut-être que c'est pas très démocratique, mais c'est ainsi. Étienne Klein l'explique très bien, d'ailleurs, la différence entre la démocratie et le côté républicain. C'est l'idée que, il y a des gens qui, un jour, eux, arrivent à se projeter, à se dire, mais c'est pas possible, nous valons mieux que ça. Et ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire que pour être un utopiste, pour croire en un autre monde, il faut avoir foi en l'humanité. Et ça, pour moi, c'est le truc essentiel qu'on a beaucoup perdu. C'est-à-dire qu'il faut avoir foi en soi, en l'autre, en nous ensemble, en notre capacité à faire des choses ensemble. Et en fait, tant qu'on perd cette foi-là, effectivement, on ne se voit pas réussir l'Anthropocène. Et donc, il faut retrouver cette foi qui n'est pas de l'ordre de la croyance. Cette foi, c'est une intuition profonde. Et ça, ce sont les gens qui, effectivement, sont très connectés à eux-mêmes, qui sont capables de suivre cette foi-là. Parce que tous les signaux, justement, toutes les normes sociales et toutes les croyances nous disent un peu l'inverse. D'ailleurs, on traite les utopistes comme des irréalistes. Donc, on nous dit quelque part que quelque chose qui n'est pas encore existé ne peut pas exister un jour. On nous dit que nous ne sommes pas capables. Et donc, cette foi en l'humanité, pour moi, c'est le truc principal à relever. Et il y a aussi cette notion de retrouver cette foi en qui nous pourrions être. Et en fait, c'est ce petit truc-là qui, pour moi, est essentiel. Et je terminerai sur une chose, c'est que cette foi, comme je disais, elle doit se battre contre des croyances, contre des normes. Et aujourd'hui, pendant très longtemps, on en parlait avec l'Institut notamment, on parlait de cette histoire de récit, de narration, de dire, il faut qu'on se projette dans d'autres mondes. Moi, j'ai expérimenté un peu avec l'utopie, c'est-à-dire que quand je suis arrivée avec ce truc de l'utopie qui était assez radical et qui est extrêmement lucide, pour autant, j'ai changé de récit un petit peu. Et donc, j'ai vu que ça fonctionnait. Mais ça restait du concept. Moi, ce qui me semble intéressant dans cette histoire de changer le récit, c'est de changer les histoires qu'on raconte. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'en viens au roman. C'est qu'à un moment donné, si on n'a pas vu que nous étions capables de faire basculer le monde, si on n'a pas montré des personnages dans des romans, dans des films, qui sont des gens qui sont des combatifs et qui combattent du côté lumineux de la force et qui ne se résignent pas, on a du mal à imaginer que c'est possible. La fiction est emplie de start-upers, de gens un peu sombres, de scénarios apocalyptiques, mais il y a très très peu de fiction où on voit des gens qui sont en train de faire basculer le monde. Et moi, je crois que la fiction, finalement, c'est aussi là où on voit tout ce qu'on pourrait être. Quand on est enfant, on a l'impression qu'on peut tout devenir. Et il y a peut-être un seul endroit où on le retrouve, c'est quand on a affaire à des livres, à des films, à la beauté du monde. Là, tout d'un coup, on se sent extrêmement puissant. Et donc, on sent que tout redevient possible.
Il a fallu en arriver là pour nous rassembler. Prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener. Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier. Ces héros du quotidien qui sont comptés. Sacrifient leur vie
non, de notre santé. C'est même qui criait dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On commencera l'homme, mec, comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu. Un point, c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort. Nañ gisé nañ xam ni nit li ko jik té moy nité ni ku né bu jappé ni mom la lépp war dina ci jëf ba melni ablar ndax da koy jaar yarama yeen docteur yi aduna rafet lu nañ sen liggéey taruna taxna batay xel yepp dal ci jangoro ci den taxaway ci mbass mi ñew ñi dundé yaakar lal europe lal us lal asie ak afrika xana di ñaan suñu borom mom mi man jëlé fili
semé encore dansé encore sourire encore s'embrasser plus fort.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous donnons la parole aux intervenants des Dialogues en Humanité, ce forum citoyen qui réunit chaque année des milliers de personnes d'une quinzaine de pays, de l'Himalaya au Brésil. L'objectif est de créer une conscience planétaire, un réseau de citoyens qui réfléchissent sur l'état du monde et sur leur capacité à agir. Cette année, au lieu de se dérouler à l'ombre des arbres du magnifique parc de la Tête d'Or à Lyon, dans le sud-est de la France, les Dialogues en Humanité ont eu lieu sur Internet. L'occasion d'abolir les frontières et d'entendre des intervenants du monde entier. Et pour Jean Fabre, qui a été pendant 10 ans directeur adjoint du programme des Nations Unies pour le développement, l'urgence, justement, c'est de prendre conscience que nous sommes une humanité unie où chacun a un rôle à jouer. Alors pourquoi ne pas abolir les frontières ?
Je suis né dans un monde de 2,4 milliards d'habitants. Nous avons dépassé les 7,8 milliards maintenant, c'est-à-dire que la population a été multipliée par plus que 3. Il a fallu jusqu'en 1824 pour atteindre le premier milliard d'habitants sur la Terre. Il en faudra 15 années pour rajouter un à ce qu'on est. On est dans une planète limitée. Du coup, on se trouve tous sur le même bateau. Il y en a qui voyagent en première, d'autres en deuxième, d'autres en troisième place et d'autres à fond de cale. Et on est tous membres de l'équipage, sans forcément en être conscient, et pas simplement passagers. On est tous devenus interdépendants dans ces dernières décennies. Donc, c'est très important de communiquer des informations. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Aux Nations Unies, une des initiatives que j'avais prises, c'était justement de lancer un programme de documentaire sur cette question. Et un des premiers que j'ai fait, c'était il y a 30 ans de cela, c'était en montrant le changement climatique, en faisant une simulation sur ce qui allait se passer dans le pays le plus tranquille au monde, la Suisse, sur les glaciers de la Suisse. Et ces derniers temps, depuis un an, on nous montre à la télévision les mêmes images, mais en réel cette fois-ci, que celles que j'avais montrées en simulation à l'époque et qui ont été diffusées par plus de 80 chaînes dans le monde. Donc, je pense qu'il y a une très, très grande importance à communiquer la dimension cognitive des choses et pas seulement les autres dimensions qui sont importantes aussi, mais il faut aussi communiquer ça. Et en particulier, quand Asdine et d'autres utilisent l'art, on l'a beaucoup utilisé. J'ai rassemblé des musiciens de toute l'Afrique pour faire passer des messages sur des thèmes importants qui ont trait à la faim, à la pauvreté ou aux questions de sida. Donc, il y a beaucoup de façons de faire passer les messages. Mais il y a une chose, et je termine là-dessus, qu'il faudrait qu'on l'on réussisse à faire, c'est cesser de raisonner à l'intérieur de nos pays. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, tous au niveau mondial. On a enfermé la famille humaine dans des enclos qui s'appellent les États. On a mis des frontières qui n'ont aucun sens, strictement aucun sens. la diversité culturelle, il faut la protéger, c'est une richesse. Mais l'enfermement dans les frontières n'a aucun sens aujourd'hui. Et il faut cesser de raisonner comme ça, y compris quand on parle des relocalisations, quand on parle du PIB, quand on parle de toutes ces choses-là. On finit par n'être qu'en compétition les uns avec les autres, là où on est devenu interdépendant. Donc, on doit être solidaire. Et la solidarité et la coopération sont des impératifs de bonne gestion de notre époque, pas seulement des valeurs morales.
Nous pouvons donc réfléchir aux contours de nos frontières, mais aussi repenser nos villes et nos manières de les habiter. Écoutez l'avis de l'architecte Dominique Gauzin-Müller qui s'est exprimé lors d'une conférence des Dialogues en Humanité.
Pour réussir l'Anthropocène, il faut en finir avec les gaspillages. Tous les gaspillages, le gaspillage en eau, en énergie, en matières premières. Et un des secteurs les plus gaspilleurs et aussi les plus pollueurs, c'est le secteur du bâtiment auquel j'appartiens en tant qu'architecte. Et le secteur du bâtiment est responsable d'à peu près 40% de la consommation de l'énergie et des autres ressources, 40% des émissions de CO2 si on considère pas seulement les émissions pour la production la construction des bâtiments, mais aussi pour l'utilisation de ces bâtiments, et à peu près 40% de la production de déchets. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'énorme et ça nous demande, c'est une énorme responsabilité que nous avons héritée du mouvement moderne. Et je pense qu'il est vraiment temps de revenir à ce qu'on peut appeler un nouveau vernaculaire ou une modernité rurale. Parce que contrairement à ce que disent beaucoup d'analystes, je ne crois pas du tout que le futur de l'humanité, il est dans des villes. Je crois au contraire, et le Covid l'a montré, qu'on va de plus en plus rentrer dans des villes moyennes, parce que c'est souvent là qu'on se sent qu'on a le maximum de bien-être, parce que on arrive à vivre et à travailler, à se déplacer, à avoir des services dans un rayon de 30 minutes peut-être, voire moins, pouvoir faire beaucoup de choses à pied. Donc, je pense que ça fait vraiment partie de cette frugalité que nous avons nommée avec mes deux amis qui l'ont écrit avec moi, Philippe Madec et Alain Bornarel, qui est ingénieur, la frugalité heureuse et créative. Heureuse, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas heureux dans leur vie et surtout pas heureux dans leur ville, entre autres parce qu'elles sont terriblement minéralisées et que l'être humain a absolument besoin de se retrouver dans la nature. Et je pense qu'il faut à la fois ramener de la végétation dans les villes, qu'il faut aussi arrêter le mitage du paysage, et qu'il faut aussi refaire la ville sur la ville et redonner une nouvelle vie à des bâtiments existants, arrêter l'artificialisation des sols, arrêter de construire sur des zones agricoles, parce que nous allons aussi relocaliser l'agriculture et la production. Refaisons des villes qui soient à la fois nourricières et des villes vertes. Et puis, la verdure en ville nous apporte aussi des îlots de fraîcheur dont nous allons avoir terriblement besoin avec le réchauffement climatique.
Pour faire face à notre monde en pleine mutation, il y a une obligation, c'est celle de la justice sociale. Aucune politique ne sera acceptable si elle laisse les jeunes et les plus fragiles sur le bord de la route. C'est la conviction de Déborah Lebloas, fondatrice des Conf Kids.
On répond à cette question d'une façon qui est assez large, on va dire, qui est à la fois pas très précise, c'est en laissant personne sur le bord de la route. C'est-à-dire, nous, alors chez ConfKids et chez Tambour-Lingueur, qui sont dans les deux structures sur lesquelles on exprime cette façon de réussir l'anthropocène, ne laisser personne sur le bord de la route, ça veut dire sensibiliser par l'exemple les plus jeunes à travers des acteurs du changement, en cassant les silos, en leur permettant de rencontrer des sociologues, des anthropologues, des activistes, et de discuter avec eux. Et en discutant avec eux, de leur permettre de se mettre en action à leur niveau. Parler de l'éducation des enfants, c'est essentiel. Parler de leur imagination, c'est essentiel. Et je voudrais rajouter un truc à ça, c'est que les enfants des nouvelles générations, et on va dire par enfants, ceux qui ont autour de 7-8 ans et peut-être jusqu'à 18-19 ans, donc de grands enfants, ils sont nés dans les transitions, ils sont nés dans le digital. Ils ne sont pas nés avec, ils sont nés dedans. Ils sont nés au moment où le digital avait infiltré tous les pans de l'activité humaine. Donc, ils ont des modes de pensée, ils ont des facultés, ils ont des usages qui sont propres, en fait, à ce monde-là, que nous n'avons pas, qu'on essaye de réactiver à travers du développement personnel, des formations, ce genre de trucs. Eux, ils l'ont en natif. Et donc, au-delà de pas au-delà, mais en plus de l'éducation et de l'imagination, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait vraiment les écouter. Et du coup, pour les écouter, il faut en fait créer des espaces de parole avec toutes ces générations-là pour écouter les solutions auxquelles ils vont penser, auxquelles nous, on ne pensera peut-être pas. Parce que finalement, on représente quand même un peu l'arrière-garde de ces sujets-là, puis c'est aussi beaucoup nous qui avons provoqué cette situation. Et ils ont une force aussi, notamment. Donc, moi, je travaille sur les enfants à peu près de 8-13 ans et sur ConfKids. Et avec les tambourlingueurs, on parle notamment beaucoup d'essentiellement avec des mineurs qui sont incarcérés ou qui sont en phase de réinsertion. Donc, c'est souvent des jeunes qui ont déjà fait un pas de côté, qui ont déjà fait une forme de sortie de route par rapport au système dominant. Ces populations-là, elles repèrent bien en fait les dissonances. C'est-à-dire que quand on parle avec eux, ils mettent vraiment le doigt très finement sur ce qui cloche, sur ce qui n'est pas en phase, sur ce qui n'est pas aligné. Par exemple, on a évoqué avec eux la Constitution française, et en gros, ils nous ont dit « mais c'est quand même fou, la Constitution française, tout est écrit, l'égalité entre les hommes et les femmes est écrite, la couche environnementale y est depuis 2004, pourquoi on ne fait juste pas ce qu'on dit ?» On a retrouvé les mêmes propos avec des mineurs en détention qu'on a rencontrés encore la semaine dernière, et qui nous disaient « mais en fait, nous, on est sortis du système parce que le système tel qu'il existe aujourd'hui, il propose des choses qui pourraient être efficaces, mais en fait, personne ne les applique. » Et donc, on préfère sortir du système et puis essayer de trouver un fonctionnement à nous. Donc, pour répondre et conclure là-dessus par rapport à la question « comment réussit l'Anthropocène ?», il faut laisser personne sur le bord de la route, il faut inclure toutes ces populations. Nous, on est sur les jeunes, mais ça veut aussi dire les seniors, ça veut aussi dire les personnes en situation de handicap, ça veut aussi dire les réfugiés. On travaille beaucoup avec Singa, par exemple. Et en fait, réfléchir ensemble à ces problématiques-là, déjà, c'est se ramener dans une forme de protocole commun. Alors, aujourd'hui, on appelle ça la loi, on appelle ça le cadre législatif, mais déjà, dans une forme de vivre ensemble, où que ce soit sur la base de la loi ou que ce soit sur la base de nos discussions, sur le pointage de ces dissonances, on se met en ordre de bataille pour essayer d'avancer en fait dans les mêmes clous, apprendre à se connaître déjà, apprendre à se connaître les uns les autres, chacun avec nos facultés, les anciens avec leur expérience et leur analyse du monde, si je veux caricaturer, et les nouveaux avec leur expérience du monde actuel et des sujets de transition, et puis essayer d'avancer ensemble comme ça. Donc voilà, si je devais répondre à la question en deux mots, c'est un, ne laisser personne sur le bord de la route, et deux, écouter la jeunesse. L'éduquer, etc., oui, mais aussi écouter ce qu'elle a à dire.
Vous pouvez retrouver toutes les conférences des Dialogues en Humanité, édition 2020, sur le site dialoguesenhumanité.org.
Avec ce que j'ai fait pour toi, disait le père, je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant, j'en demandais pas tant, je suis là pour tourner autour de cette terre, tant que je suis vivant. Vivant qui t'a donné la vie, disait le père, si c'est pour la passer ici, disait l'enfant, tu as perdu ton temps, si les fumées des rues fermées te sont légères, moi j'ai besoin du vent, et si tu venais à mourir, disait le père, on est tous là pour en finir, disait l'enfant.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast, donc n'hésitez pas à partager nos émissions sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Si pour garder les mains liées, il faut la guerre, moi je m'en vais avant. Ce monde, je l'ai fait pour toi, disait le père. Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant. J'en demandais pas tant. Il est foutu et je n'ai plus qu'à le refaire. Un peu plus souriant pour tes petits enfants.